Alors cette année, on étudie donc l'homme. Alors on peut se dire, c'est bizarre d'étudier l'homme, puisque normalement la théologie, c'est plutôt d'étudier Dieu. Et donc on se demande pourquoi est-ce qu'il faudrait étudier l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que c'est vraiment intéressant. Alors ce qu'on voit à travers l'homme, c'est à travers le projet créateur de Dieu, c'est que ça nous révèle quelque chose de Dieu. Donc on est aussi de notre point de vue, et donc étudier l'homme ou la création, ça permet de voir aussi qu'est-ce que veut Dieu sur nous, et donc c'est une manière de comprendre mieux ce que Dieu fait. En plus, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est en Genèse 1, 1-2, et donc on a quelque chose de l'homme qui dit quelque chose de Dieu aussi, voilà. Ensuite, on a, après le péché, donc quand même assez tôt dans la Bible, chapitre 3, Dieu ne renie pas sa création, mais il s'en occupe, il la soigne, et même il va jusqu'à venir se faire homme. Donc voilà, Dieu s'est fait homme, donc en regardant l'homme, ça nous dit aussi quelque chose de Dieu, et en tout cas dans la personne de Jésus, on a à la fois un vrai homme et un vrai Dieu. Et enfin, toute l'économie du salut, c'est la relation, et le Père Giton l'a très bien dit dans la présentation de là, pendant l'adoration, c'est que c'est une relation entre Dieu et l'homme, et donc Dieu nous a choisi dès le commencement, et donc dans une relation, quand on comprend les deux pôles, et on comprend mieux, quand on comprend un pôle, on comprend mieux l'autre aussi. Donc le fait que Dieu veuille nous étudier, veuille nous aimer, et nous veuille, et ben ça nous étudier l'homme, ça doit vouloir dire quelque chose aussi de Dieu. Donc c'est pas vain de vouloir comprendre qui est Dieu. J'aurai un cours après. À la fin, je vous donnerai rien. voilà. Et dans Hans-Urs von Balthasar, qui est un théologien du XXe siècle, il dit, dans les pensées non chrétiennes, c'est l'homme qui est donné et c'est Dieu qu'on cherche. Et puis dans le christianisme, c'est l'inverse, c'est Dieu qui est donné et c'est l'homme qu'on cherche, en fait. Et tout le salut de Dieu et l'étude de Dieu, c'est justement de trouver qui est cet homme. Voilà. Et le titre du cours de l'année, c'est mis « Qui est l'homme pour que tu penses à lui ?» Donc c'est une phrase du psaume 8. Et voilà, il y a cette idée de comment c'est possible que Dieu s'intéresse à l'homme. Donc la question de l'homme, de sa dignité, de sa destinée, nous permet de rencontrer à la fois mieux Dieu, comme ça c'est ce que j'essaye de vous dire, et puis aussi de rencontrer les réflexions sur nos contemporains. Parce que finalement, il y a beaucoup de questions de nos contemporains qui portent sur l'homme, en fait. Sur qu'est-ce que l'homme, on aura le temps d'étudier différents aspects. Et donc, l'étudier d'un point de vue chrétien et se dire qui est cet homme, ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux évangéliser et mieux prier aussi pour nous. Voilà. Alors, cette année, on va avoir... donc, il y a plein de... Qu'est-ce que l'homme? Je vous ai mis une phrase de Vatican II, Gaudium et Spes. Qu'est-ce que l'homme? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles souvent, ou bien il s'exalte lui-même comme une norme absolue. Ça, c'est une vraie tentation d'élever l'homme jusqu'à être Dieu, mais pas dans le sens divinisé, mais dans le sens indépendant et qui se suffit à lui-même. Donc, toutes les tentatives sur le surhomme, sur la maîtrise complète de l'univers, etc. Et puis, il y a d'autres parts de l'étude qui sont « il se rabaisse jusqu'au désespoir » et là, l'homme n'est rien, c'est un néant et on peut l'oublier, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et donc, d'où les doutes et les angoisses. Et donc, ces difficultés, l'Église les ressent à fond, instruite par la révélation divine, elle peut y apporter une réponse où se trouve dessinée la condition véritable de l'homme, où sont mises à la fois au clair ses faiblesses, mais où peuvent en même temps être justement reconnues sa dignité et sa vocation. Donc ça, c'est le chapitre de Gaudium et Spes 22, qui est aussi un texte de référence sur le sujet. Je vous donnerai aussi d'autres références. Voilà, et qui est un peu cette idée de retrouver la dignité de l'homme sans méconnaître sa faiblesse. C'est d'abord sa condition de créature, et puis sa faiblesse due au péché.
Qu'est-ce que ça veut dire,
Gaudium et Spes, c'est une encyclique de Vatican II. Donc c'était des textes de l'Église. De Gaudium et Spes, donc sur la joie et l'espoir. Dans Vatican II, il y a beaucoup d'encycliques.
Très bien.
Ça veut dire ça, Jérôme? Je me suis trompée, Gaudium. Non, c'est bon. Attends, du coup, j'avais un doute. On le dit toujours en latin, alors voilà. Alors, cette année, on va étudier... Donc, on aura 8 cours sur l'homme, qu'on va étudier dans toutes ses dimensions. Alors, le premier cours est un peu... est partir de la Dieu créateur et du projet de Dieu. Et donc, Dieu créateur et rédempteur de l'homme. Donc, on va se faire vraiment du point de vue de Dieu pour ce premier cours. Et après, on aura d'autres fils pour creuser le mystère de l'homme. Autour de corps et âme, tout ce qui est autour du temps, du langage et de la pensée, tout ce qui est autour de l'homme et la femme. Donc, en fait, beaucoup de concepts parallèles qu'on va mettre justement en regard. La société et l'individu, l'agir moral, la loi naturelle et puis la vocation divine de l'homme. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus sur Dieu créateur et rédempteur. Donc finalement, on est sur vraiment les fondamentaux. Voilà, on essaye de creuser la brique initiale, on va dire. Alors, c'est pas si simple de découper, donc je déborde de temps en temps sur d'autres sujets. Et puis, j'espère avoir à peu près mis en place les fondamentaux. Donc, la première partie sera sur la création de l'homme. Ensuite, on va voir la vocation de l'homme, voilà, et sa surnature. Et puis ensuite, trouver la clé du mystère de l'homme dans le Christ rédempteur. Alors, sur la création de l'homme, le marron, donc on va... Alors, dans les textes de référence, on va évidemment avoir Genèse 1, 2, 3. On va avoir Gaudium et Spes, donc je vous l'ai déjà dit, surtout le chapitre 22. On va avoir Rédempteur Hominis, que je vous invite à relire en entier. C'est assez facile à lire, c'est pas gros du tout. Voilà, c'est vraiment inspirant. Et on parle aujourd'hui, mais je pense qu'on en reparlera dans l'agir moral avec tout ce qui est autour de la liberté. Donc, Rédempteur Hominis, c'est vraiment facile à lire. J'ai quelques citations un peu plus tard. Mais c'est vraiment, je vous conseille de lire, notamment toute la première partie, en fait. Voilà. Et puis, il y a pas mal de lettres aussi de saint Paul sur l'homme. Donc, il y a 1 Corinthiens, il y a Éphésiens, il y a Romains. Voilà. Donc, plusieurs. Donc, vous allez avoir des références au cours du texte. Mais clairement, c'est un peu les sources sur le sujet. Alors, la création de l'homme. Donc, on commence par Genèse. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Donc, ce que nous dit Grégoire de Nice dans la création de l'homme. Ah oui, c'est aussi une des références. Tout un livre sur la création de l'homme. C'est que Dieu prépare soigneusement la création de l'homme. Donc il y a comme si une concertation. Avant la création de l'homme, il y a juste Dieu dit et c'est. Voilà. Là, il y a une réflexion. Faisons l'homme à notre image. Il se concerte. Il explique en plus comment il va le faire, donc à notre image selon notre ressemblance. Et il lui donne un rôle, même une mission, qu'il soit le maître des poissons, etc. Donc il y a un vrai projet sur l'homme. Voilà. C'est pas juste on crée l'homme, c'est... il y a une intention et une place donnée à l'homme. Donc Grégoire nous dit, le créateur commence par concevoir le modèle du futur être, la nature qui lui convient, l'archétype dont il portera la ressemblance, le but dans lequel il sera appelé à l'existence, les activités qui seront les siennes une fois créées, les créatures sur lesquelles il étendra la domination sur l'univers. Voilà. Et pour l'homme, on dit, Dieu dit, et cela a été très bon. Voilà. Donc, c'est pas seulement bon, c'est très bon. Voilà. Et c'est le parachèvement de la création.
Est-ce que ça a à voir avec les fruits de l'abondance?
Je ne sais pas. À la fin, les questions. À la fin. Tu notes tes commentaires et tu m'aideras à la fin. Alors, dans le psaume 8, donc je vous citais qui est un peu le titre du cours de l'année. « Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu te soucies de lui ? À peine le fis-tu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et de splendeur, tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. » Donc là aussi, on a la position et la place de l'homme dans la création, au regard de Dieu et au regard de la création et du reste de la création. Donc on a une image, l'homme, qui porte l'empreinte de la beauté du modèle et qui n'est pas identique, donc on est bien sur un être créé, hein. Pas du tout comme le modèle, on n'a pas dit qu'il était Dieu. Et dans sa venue même à l'existence, il y a un mouvement. Donc on en voit bien qu'il y a une... faisons l'homme, il y a une sorte de... voilà, il y a une altération, il y a quelque chose qui est une dynamique, un changement qui est imposé à la créature par la volonté divine. Donc on est sur bien une création et pas non plus un Dieu. Dans son sens théologique, la nature, donc on parle souvent de la nature humaine, ça va être aussi un peu le filigrane de ce cours-là, on renvoie à la naissance, c'est-à-dire à l'expérience de tirer son être d'un autre. Donc ça, la nature de l'homme, c'est de tirer son être de Dieu. Et donc, il est voulu par Dieu, préparé, organisé et soutenu par lui. La nature renvoie à l'expérience de la paternité. Seul un Dieu Père peut avoir préparé avec amour le berceau de l'homme. On creusera une autre. Alors, le deuxième aspect dans cette création de l'homme, hein, c'est dans Genèse 2,7, donc c'est l'autre récit de la création. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, tous les termes, insufflé, etc., souffle de vie, ne sont pas juste donner la vie. Ce n'est dit que pour l'homme, d'abord. Et donc, il y a, au-delà d'être un être vivant au sens juste animé du terme, en fait, ce souffle de vie, c'est vraiment le souffle de l'Esprit Saint. Donc, il y a l'idée de spirer, et donc comme s'il le modèle, et il lui insuffle quelque chose du souffle divin, donc du souffle, le Saint-Esprit. Voilà, et qui est le Saint-Esprit, c'est l'amour même du Père et du Fils. Donc, quelque part, l'intimité de la vie de Dieu. Et comme Dieu est amour, ça veut dire qu'il lui donne quelque part, quand il y a l'image et la ressemblance, il lui donne vraiment son être, ce qu'il est, c'est-à-dire l'amour. Donc Dieu ne crée pas sans intention, par simple débordement d'être, mais vraiment avec un projet d'amour. Et donc il insuffle pour qu'il y ait ce souffle de vie, de sa vie à lui. Voilà, il nous aime, et pour que la relation puisse être, il nous élève jusqu'à lui. Il nous revêt de sa dignité en nous donnant l'Esprit Saint. Qui nous veut ses amis, capables d'aimer à leur tour. L'image et la ressemblance va jusqu'à être comme Dieu. Donc toujours une créature, hein, on reste bien sur bon niveau, mais vraiment dans toute cette dimension de Dieu sur grâce à l'Esprit Saint. Alors la grâce incréée, ça c'est tous les termes de saint Thomas d'Aquin, bon, enfin, la grâce qui est lumière et feu se trouve impliquée dans l'acte créateur lui-même. L'homme reçoit à la fois la vie et la grâce, donc à la fois la vie et l'Esprit Saint. Et donc on peut dire que l'Esprit Saint est le principe de notre existence. Et donc on n'a pas d'un côté une création, voilà, on modèle un être vivant, et puis ensuite on lui donne une dimension, voilà, la ressemblance, l'image, on lui donne l'Esprit Saint. C'est un même projet et c'est dans un même, même si c'est décrit dans deux temps différents, c'est un même acte en fait de création. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tendance à juxtaposer le créateur et ses créatures, comme s'il y avait le créateur, et puis après, il y a les créatures. Et en fait, les créatures, comme si elles avaient une autonomie et une vie propre. En fait, la créature, justement, son être n'existe que parce que Dieu la porte, en fait. Et donc, l'être humain, en fait, il n'existe, et quelque part, il ne respire que si Dieu pense à lui, en fait. Voilà. Donc c'est pas juste je crée puis après ça vit sa vie et voilà. C'est vraiment on est porté, et donc le fait qu'il nous insuffle sa vie avec l'Esprit Saint, c'est vraiment comme si voilà, il vit en nous quoi. C'est parce qu'il vit en nous par l'Esprit Saint que on a l'existence en fait et qu'on est vraiment un être humain. Donc Dieu constitue pour l'homme son origine, son centre et son but. Il lui donne la vie, le mouvement et l'être, ce qui est dans Actes 17-28. L'homme ne peut exister hors de Dieu. Le seul homme vraiment naturel est celui qui se reconnaît créature portée par la grâce. Donc, quelque part, voilà, on pourrait rendre grâce. Oui, on respire, mais en fait, quelque part, la respiration de l'âme, c'est d'être en Dieu. Alors, évidemment, il y a eu un événement malheureux qui est le péché. Donc, la nature, elle est devenue déchue. Donc, on a, dans toute la Bible, on a une place immense faite à l'homme affronté au mal en lui-même. Donc, ça commence très tôt, Genèse 3. Donc, on est au tout début de la Bible. Et puis après, ça traverse vraiment toute la Bible, avec notamment beaucoup, beaucoup dans les psaumes, la condition de l'homme confronté au mal, à la souffrance et tout ça. Et puis dans les évangiles, où on voit que Jésus, il a affronté le mal, il a guéri et il a affronté le mal. Voilà, il a commencé même à sa naissance, puisqu'on a éradiqué tous les nouveau-nés. Donc il a été dès son incarnation confronté à la situation de l'homme post-péché. Donc en fait, ce que nous dit aussi l'histoire du salut, c'est que c'est à la fin de l'histoire, donc avec la révélation progressive de ce qu'on appelle l'eschatologie, donc oui, la fin des temps, donc quelque part la résurrection de la chair, la résurrection finale de l'homme, que on comprend la nature de l'homme Et on essaye de comprendre aussi la nature de l'homme en la dissociant du péché, en fait. Parce que c'est ça qui est compliqué maintenant, c'est qu'on regarde l'homme, mais c'est compliqué de dissocier l'homme et le péché, en fait. Et c'est ce que va nous donner, ce sera la troisième partie, la clé du Christ, c'est que lui, il est sans péché, donc il nous dit quelque chose de l'homme comme dans le projet de Dieu, quoi. Qu'est-ce que ça devrait être et qu'est-ce qu'il sera à la fin des temps avec la résurrection de la chair. Donc on a en fait, ce que le péché a fait quand il est entré, il a atteint deux choses essentielles, à la fois l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a coupé la relation avec Dieu, on a été chassé du paradis, et donc quelque part c'est cet éloignement de Dieu qui fait qu'on n'est plus en connivence, et donc quelque part on ne sent plus ce portée de Dieu pour nous, et puis la vie même, puisque la mort est entrée. Donc ça atteint vraiment les dimensions essentielles qu'on vient de décrire, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance, et puis le souffle de vie du Saint-Esprit. Donc c'est pas une mort éternelle, hein, on est clair, puisqu'on est amené à la résurrection, mais voilà, il y a une dimension, en tout cas la mort est entrée, et donc ça atteint vraiment ce qui est le plus spécifique à l'homme et ce qui est notre condition. Alors ensuite, je voudrais parler un peu de Luther, parce que le protestantisme, et Luther notamment, a beaucoup réfléchi à cette notion de grâce et de péché, en fait. Et pour lui, en fait, il n'y a que la parole de Dieu, que l'intervention de Jésus qui dévoile le péché et qui peut nous offrir le salut. Donc, quelque part, la liberté de l'homme, du fait du péché, donc là, on parle de Luther, hein, on n'est pas sur la dimension catholique, en fait, il n'a plus de liberté, quoi. Donc, il parle de serf-arbitre, j'aime bien le terme, donc c'est pas du self. Voilà, serf, c'est au sens servitude. Qui ne sert qu'à le condamner. Donc pour Luther, qui est très sensible à la pauvreté morale du baptisé, donc il est très conscient du péché, en fait, il dit, pour lui, il développe vraiment la grâce comme étant la gratuité absolue de Dieu qui vient nous sauver, qui vient nous justifier alors qu'on n'est rien et qu'on ne peut rien. Et donc, il impute tout à Dieu, ce qui est juste, en vrai, puisque la grâce, elle n'est que de Dieu, et le salut, il vient de Dieu, on est clair. Mais pour lui, l'homme pécheur, il sera sauvé que dans le monde à venir. Et donc, il emploie le terme ordure, ce qui est quand même pas très, très glorieux pour la dignité de l'homme. Et donc, pour lui, il n'y a pas de collaboration possible ou de réelle transformation ou de progrès du point de vue de l'homme dans cette vie. Donc, il met vraiment une dissensation en disant cette grâce absolue, le péché nous a tellement abîmés qu'on peut rien. Que Dieu nous aime tellement gratuitement qu'il le fait au-delà de tout. Mais du coup, il y a une sorte de déséquilibre complet. Voilà. Alors, un autre déséquilibre, c'est le jansénisme, 17-18e siècle, qui eux aussi veulent magnifier la grâce, donc là, c'est très bien, mais en souligner aussi l'arbitraire, et donc faire quelque part, de dire, il y en a certains qui seront sauvés et d'autres pas. Du coup, c'est une sorte d'arbitraire de Dieu. Qui est contraire au fait que Jésus est venu sauver tous les hommes. Voilà. Donc ces deux biais, en fait, font qu'on a eu longtemps, pendant plusieurs, un siècle et demi, un débat stérile sur la liberté et la grâce, parce qu'en fait, chaque fois, on le définissait en opposition d'un à l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, la grâce de Dieu, elle est salue, et elle est complètement gratuite, et donc l'homme n'y peut rien, voilà. Et de l'autre côté, on disait, oui, mais l'homme est quand même libre, et donc, malgré le péché, il y a un petit peu de sa liberté qui reste. Et en fait, le problème, c'est quand on met en opposition les choses, et ça va être toute l'année, on va faire ça, c'est-à-dire que si on met en opposition les choses, oui, ça paraît absurde, et on ne voit pas comment on peut les réconcilier, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder. Et donc, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, elle nous a bien dit, voilà ce qu'il faut faire, c'est tout vient de Dieu. Mais en fait, c'est lui-même qui demande à ce qu'on associe à lui. Donc, c'est sa théorie du « lève ton petit pied », voilà, tu fais rien, mais si tu ne lèves pas ton petit pied, il ne va rien se passer non plus. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose. C'est aussi la phrase de saint Paul, j'achève ce qui manque à la croix du Christ, ce qui n'est pas vrai, il ne manque rien à la croix du Christ, mais il manque juste le fait que je l'accepte en moi et que du coup, j'accepte d'en vivre. En fait. Et donc, cette grâce, du coup, ce n'est pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui nous donnerait le salut. C'est pas non plus une contrainte qui fait que, bon an, mal an, comme les jansénistes pensaient, on est sauvé ou pas, mais voilà, en fait, finalement, c'est un peu, on y est pour rien, quoi. Elle est le fait que Dieu se place de notre côté, il nous donne elle nous réveille notre liberté, qui fait qu'on peut adhérer au projet de Dieu. Et donc, c'est à la fois complètement gratuit et en même temps, on retrouve la petite marge de manœuvre qui permet que nous aussi, on puisse faire un petit, le petit pied, là, lever le petit pied, faire un petit geste, et qui fait que du coup, dans le projet de Dieu, la relation, elle redevient des deux côtés, en fait. Parce que c'est bien tout le début, c'est ce qu'on a dit sur la création de l'homme, c'est, voilà, il nous, quelque part, il nous élève à son niveau pour qu'il y ait une relation qui n'est pas équilibrée, puisqu'il y a le créateur et la créature, mais qui est quand même possible, voilà, une vraie relation. C'est pas juste d'un côté, quoi, dans un sens unique. Donc c'est ça que fait la grâce de Dieu, donc c'est vraiment de nous restaurer ce petit supplément de cette possibilité de... En fait, il nous désenkylose, quoi. C'est le kiné plus, voilà, qui nous enlève tout ce qui nous coince complètement et qui fait qu'on retrouve un tout petit peu de jeu et que du coup, son œuvre peut agir, en fait, en nous. Alors maintenant, si on passe sur la vocation de l'homme, donc là, il y a eu beaucoup de... Dans tous les courants philosophiques et sciences humaines aussi, en fait, on a essayé de regarder l'homme indépendamment de Dieu, comme s'il y avait un homme sans Dieu, en fait. Et du coup, ça gomme complètement le côté surnaturel. Ou alors, on le met de côté, puis après, bah oui, c'est peut-être pas mal de remettre une petite dose de surnaturel, parce que ça fait, voilà, ça fait bien dans la sauce, quoi. Mais, en fait, du coup, on méconnaît fondamentalement quel est le projet de Dieu, ce que je vous ai dit au début sur la création, qui est que, en fait, Dieu, il nous crée, et en même temps, il nous adopte, quoi. Il nous adopte comme son partenaire dans la relation, comme à son image, et comme ses enfants, en l'occurrence. Voilà. Et donc, on a dans cette création et cette adoption, c'est pas deux mouvements, c'est pas on est créé, et puis au moment où Jésus meurt sur la croix, on est adopté. Parce qu'en fait, on voit même, après coup, après la Pentecôte, on est adopté. Non, en fait, c'est dès le début ça, et après, c'est comment tenir ça dans le temps. Et donc, Dieu est fidèle, et donc Jésus vient pour que ça se réalise, quoi. Mais c'est dès le début. Voilà. Et donc, il faut qu'on... Et donc, toutes les doctrines, là... Alors, il y a eu la phénoménologie... Le personnalisme, alors je ne vous fais pas un cours là-dessus, parce que d'abord je ne connais pas du tout, mais voilà, toutes ces dimensions, l'existentialisme, etc. Une branche aussi du marxisme, donc ça c'est ce que dit le père de Lubac. C'est une longue citation de lui, ce qui montre bien comment tout ça, ça fait qu'on part du mauvais pied pour étudier l'homme en fait. Donc l'homme ne peut donc se contenter de suivre la nature, car elle ne lui offre rien de normatif, mais pas davantage, il ne peut simplement lutter contre elle, comme si lui-même n'avait rien de biologique, mais était tout entier un être de culture. Sa tâche est plutôt de l'accueillir en vue de la transformer. Donc, ce que dit Cardinal de Lubac, c'est... Voilà, toutes ces théories, soit elles exaltent le fait qu'il y a une nature humaine et que donc il faut essayer de se conformer à cette nature humaine, soit elles la nient en disant tout ça s'apprend et c'est de la culture et c'est une question de... Voilà, il faut choisir ce qu'on veut. Typiquement le marxisme, par exemple. Voilà. Donc, tantôt marxiste ou technocrate, l'homme moderne s'imagine à tort pouvoir, par sa technique, exercer un empire illimité sur la nature et créer son histoire. Et tantôt, il abdique, allant jusqu'à parler de sa mort au nom même des sciences et des techniques qui le réduisent à un nœud inextricable de connexion naturelle. Donc, d'un côté, l'Orient non-chrétien réduit par l'ascèse, l'Occident post-chrétien par les sciences. Donc, c'est très réducteur pour le gardien du bac. C'est vraiment une vision tellement réduite parce qu'on se focalise juste sur l'homme qu'on voit que du coup, on ne perçoit pas du tout sa dimension et que du coup, on est à côté de la plaque. Voilà, l'Orient arrache méthodiquement, j'aime bien ces expressions, il est toujours très imagé. L'Orient arrache méthodiquement les peaux mortes cosmiques, biologiques, sociales, psychologiques et résorbe l'homme dans le transpersonnel. Et l'Occident analyse méthodiquement les conditionnements et attend le salut de l'infrapersonnel, cure psychanalytique ou révolution sociale. Voilà, mais la personne veut la divino-humanité, sa connivence avec le Dieu vivant est d'être comme lui secrète, énigmatique, insaisissable. On saisit la nature, mais on ne peut saisir la personne. Car la personne n'est pas un objet de connaissance, pas plus que Dieu. Comme Dieu, elle est l'incomparable, l'inépuisable, le sans fond. Voilà, il y en a que la personne est toujours unique. La personne est absente des analyses de la raison par la surabondance même de sa lumière et se révèle dans l'amour. Donc ça, c'est aussi le problème de toutes ces sciences et ces études philosophiques. C'est comme l'homme, on est à la fois l'objet et le sujet de l'étude, c'est-à-dire qu'on essaye d'étudier nous-mêmes, en fait. Donc du coup, on n'a pas le bon prisme, en fait. C'est très compliqué d'être dedans et de s'étudier en même temps. Surtout qu'il y a le péché qui nous donne des belles œillères, donc on ne voit pas grand-chose. Donc en fait, ce que dit le cardinal Lubac, c'est qu'il faut qu'on remonte à Dieu. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va mettre la main sur le mystère de l'homme. C'est-à-dire que si l'homme, il est à l'image de Dieu, en fait, il est aussi quelque part inconnaissable au sens où on n'aura jamais fini d'épuiser et de connaître le mystère de Dieu. Et bien, de la même façon, on n'aura jamais fini d'épuiser, de connaître le mystère de l'homme, parce qu'il est à l'image de Dieu. Et donc, il y a une forme qui est absolument pas juste de vouloir mettre la main sur l'homme, d'en faire un objet de connaissance et de l'enfermer dans cet objet-là. Voilà, parce qu'on dépasse largement, et c'est Dieu qui nous le dit, et c'est dans le, et c'est en ça qu'on est, qu'on est, qu'on peut dire qu'on a une, voilà, on n'est pas une nature pure au sens comme un animal, mais que on a une, voilà, un désir naturel de surnaturel. C'est la deuxième partie. Voilà, on est appelé à quelque chose qui nous dépasse et du surnaturel. Alors, le terme surnaturel est un peu ambigu, mais quand même, il dit quelque chose qui va au-delà de la nature au sens voilà, biologique, au sens de ce qu'on perçoit ici. Donc, le désir naturel du surnaturel. Donc, les philosophes de l'Antiquité avaient déjà souligné la place axiale de l'homme dans l'univers. L'homme est debout. C'est un animal qui se tient debout, droit, comme faisant un pont entre le ciel et la terre. Alors, les pères de l'Église ont repris ce thème-là en y mettant toute leur foi catholique et toute leur façon d'unifier les choses et de tout mettre ensemble, donc ce qui est toujours très heureux. Voilà. Et donc, ils disent, l'homme unit le visible et l'invisible. Il résume en lui l'univers, dans ce sens qu'il est à la fois corps et esprit. C'est ce qu'on verra beaucoup la fois prochaine. Mais voilà, il y a quelque chose de la connexion entre la terre et le ciel. Voilà, entre la création et Dieu. Grégoire Nassiens disait aussi « En ma qualité de terre, je suis attachée à la vie d'ici-bas, mais étant aussi une parcelle divine, je porte dans mon sein le désir de l'éternité. » Voilà, et donc on a cette tension toujours entre ces deux dimensions, qui si on les oppose, mènent à un cul-de-sac, mais si on essaye de les unifier, mènent à en fait Jésus. Donc c'est très bien. Donc Grégoire nous dit aussi, alors là je vous ai mis plusieurs citations, parce que ça permet de, je trouve que ça dit les choses de façon un peu différente, donc ça permet de mieux comprendre les choses. Dieu, quand il crée l'homme, place en lui une dualité de principes, il y mêle le divin et le terrestre, pour que ces deux principes mettent l'homme en accord et en conformité avec la double jouissance de Dieu par la nature divine et des biens terrestres, par la sensation qui est de la même nature qu'eux. Alors là il parle des animaux. Donc il fait vraiment cette analogie comme si on avait une double jouissance, double manière de double principe. Saint Augustin dit, tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Sous-entendu, l'homme est fait pour Dieu et pour se dépasser. Et finalement, on a l'impression que c'est un terrien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et alors Saint Thomas d'Aquin, lui, il est toujours très très équilibré et puis il a bien travaillé Aristote. Donc à la fois, il dit comme Aristote l'homme est par nature un animal social et un animal raisonnable. Donc il y met le côté à la fois fait pour les relations, c'est d'ailleurs social, et puis un animal raisonnable, donc il y a la faculté de raisonner, une forme d'intelligence et la faculté de chercher et de connaître. Voilà. Et donc, et en même temps, l'homme est considéré comme à la fois une créature raisonnable, mais en qui est imprimée intrinsèquement la fin dernière de remonter à Dieu jusqu'à la béatitude. Et donc finalement, sa raison, elle est aussi utile pour comprendre et connaître Dieu. Voilà. Donc elle peut aller jusque-là, même si elle n'épuisera pas les mystères de Dieu. Donc l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui le rend capable de se diriger librement vers les fins qui lui semblent les meilleures et d'utiliser les moyens qui lui semblent les plus appropriés, donc y compris son corps, son intelligence, son cœur, son âme, voilà, tout. Donc pour saint Thomas d'Aquin et pour tous les pères, on est bien un bipède, donc je trouve intéressant le fait qu'on n'est pas un animal ordinaire, on est un bipède, donc voilà, avec la dimension axiale qui monte vers le ciel, bien ancré dans le réel, les deux pieds sur terre, raisonnable, libre, fait pour Dieu et désirant le ciel. Donc on voit qu'on est déjà avec des particularités un peu intéressantes. Et c'est parce que Dieu s'est donné lui-même en tout premier lieu comme fin à l'homme, en se présentant à lui comme le salut, et donc c'est même le projet de Dieu initial, hein. C'est l'homme qui cherche dans le jardin de jardin d'Éden, qui dit, voilà, il cherche l'homme, quoi. Donc dans la contrepartie, l'homme devrait chercher Dieu. Et c'est parce qu'il a mis d'avance l'homme en marche vers cette fin que l'essence et l'existence de l'homme ont reçu leur détermination. Donc il y a une forme d'orientation. L'homme, il n'est pas juste là, et il vit, et il se débrouille, et il fait des choses, et il agit, et voilà. Il a une vraie orientation au sens où il cherche quelque chose, et il a une finalité, il est en quête de quelque chose qui le dépasse. Et donc la fin dernière de l'homme, sa vocation, elle est surnaturelle. Elle transcende tout ce qui pourrait être obtenu par les forces humaines. Elle a un caractère mystérieux. Donc là, on rejoint la dimension comme l'objet de la foi. Elle ne peut être pénétrée par une intelligence géniale, ni par un effort collectif. C'est ce que nous dit la révélation. Et donc la foi a sa lumière propre, et c'est elle qui alliée à la raison, peut-être en la boostant ou la surdimensionnant, va nous permettre de mieux comprendre le mystère de l'homme et le mystère de Dieu. Donc il y a à la fois une objectivité de la connaissance assurée par la tradition de l'Église, elle nous dit des choses concrètes et objectives sur l'homme, mais il y a aussi une insuffisance congénitale de notre mode de connaissance pour vraiment comprendre tout. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas et ça ne nous dédouane absolument pas d'essayer de comprendre. C'est clair, puisqu'il nous a donné une intelligence, donc il faut l'utiliser. Et donc c'est tout le paradoxe, l'apparent paradoxe de la nature humaine, qui est à la fois très naturel au sens création du terme, et puis qui est tendu et énervé par le surnaturel dans l'unité de l'homme sauvé. Je vous ai remis une citation du cardinal de Lubac, mais je vais passer directement au petit paragraphe 3 là sur « Il ne s'agit pas de deux réalités, de deux natures juxtaposées ». Alors l'autre chose qu'on a un peu abordée là au début en parlant des philosophes et des sciences humaines, c'est qu'on a tendance à dire « Bon, alors d'abord on étudie la nature humaine, et puis après on voit la couche surnaturelle, puis on voit qu'est-ce que ça donne ». Voilà. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Donc reprenons le principe de base, c'est vraiment qu'il y a une immixtion, enfin voilà, que les deux choses sont en même temps, et il n'y en a pas une qui est extérieure à l'autre. C'est une double dimension, une double, comme on avait dit, Grégoire, un double paramètre de notre réalité. Donc ce que nous dit Karl Renner, qui est un théologien du XXe siècle, la grâce est essentiellement une détermination, une élévation et une divinisation de la nature. Donc n'allons donc pas l'imaginer comme un étage supérieur que l'architecte céleste ajouterait dans sa sagesse à celui d'en dessous la nature, de telle manière que l'étage inférieur, gardant intacte la structure qu'il tient de lui-même, ne serait rien d'autre qu'un support de cet étage plus élevé. Ça, c'est une vision qui dirait, bah voilà, il y a une nature humaine qui existe toute seule, et puis après on rajoute un autre étage qui lui donne un peu de sens et rajoute des potentialités. Saint Thomas d'Aquin parle d'une connaturalité établie entre Dieu et l'homme. L'âme s'achèvera et se dépassera en Dieu lui-même. L'homme n'est pas seulement le temple du Saint-Esprit. Au sens où il habitera en nous, mais le temple vivant, c'est-à-dire vivifié par la présence du Saint-Esprit et assimilant notre vie à sa propre vie. Donc la grâce du Saint-Esprit se prolonge dans l'âme elle-même par une grâce créée, c'est-à-dire par une qualité divine qui assimile l'âme à Dieu, la faisant participer à sa propre vie. Donc ce n'est pas une seconde nature, c'est une vraie qualité infusée dans l'âme, alors un accident au sens aristotélicien du terme, mais qui adapte l'âme à vivre la propre vie de Dieu. Donc là, il fait un parallèle entre ce que je vous dis sur la nature et la surnature, et puis entre la façon dont le Saint-Esprit vit en nous. Quand on dit qu'on est le temple de l'Esprit-Saint, ce n'est pas juste que le Saint-Esprit l'habite en nous, comme si on avait un petit Saint-Esprit là, à disposition à l'intérieur de nous, puis qui nous donnerait 2-3 orientations et qui nous guiderait, ou qui ferait un peu le ménage chez nous. C'est vraiment, il y a une sorte de... Le Saint-Esprit, quand il vient, il donne une qualité à l'âme. Donc, il y a une transformation. Et ce n'est pas une nature. Notre âme, elle n'est pas juste... il n'y a pas deux choses, quoi. C'est qu'elle transforme notre âme. Elle transforme tout notre être. Et du coup, elle la rend capable de Dieu, en fait. Voilà. Là, elle remet cette possibilité, cette vocation divine. Et donc c'est cette histoire de transformation et d'innervé, là, comme quand il y a quelque chose qui s'enfouit et ça se transforme en quelque chose d'autre. Donc c'est un vrai modèle de... Il y a une synergie, ouais, puissance 10. Donc on peut transposer ça sur le principe d'unité dans la Trinité. On a trois personnes et finalement, on parle d'un seul Dieu parce qu'il y a une telle... La relation est tellement intime et il y a une telle réciprocité dans ces relations que du coup ça fait un. Voilà. Et bien quelque part, la nature et la surnature, c'est la même chose. Voilà, il y a cette unité qui a l'image de Dieu et qui fait qu'on est tout un, à la fois créature et à la fois pour Dieu. Et donc vivant de l'intimité, et l'Esprit Saint, il fait la même chose en nous. Voilà, donc le surnaturel est une adoption, une assimilation, une transformation qui assure à la fois l'union et la distinction des deux incommensurables par le lien de la charité. Oui, l'autre particularité dans la Trinité, c'est que du coup, la communion, elle est très intime, mais elle ne dilue pas les trois personnes. On a les trois personnes qui, au contraire, sont encore plus personnel dans cette communion. Et bien, en nous, c'est pareil. Voilà, ça garde les deux pôles, mais qui sont comme unifiés en une nature. Alors, une autre tentation, c'est de garder justement ce principe de transcendance, enfin, ce fait qu'on est fait pour Dieu. Il ne faut pas croire que d'un côté, on pourrait se dire, comme on est vraiment fait pour Dieu, on va attendre la vie du ciel et puis en attendant, on peut ne rien faire, quoi. Donc, il n'y a rien à faire sur Terre. Et en même temps, il ne faut pas non plus prendre tout ce qu'on a à faire sur Terre pour la finalité, puisque notre finalité, elle est au ciel. Donc, il faut qu'on garde toujours quelque chose d'équilibré entre cette dimension de créature et cette dimension surnaturelle qui est en fait notre être, quoi. C'est tout nous, ça. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on le verra dans toute la partie sur tout ce qui est un peu plus moral ou façon de vivre, mais on l'a aussi dans des notions comme l'économie ou la transformation du monde ou notre rôle social. Là, il y a plein de choses qui sont très percutantes quand on pense à ça. C'est-à-dire il faut à la fois faire comme si on a des tas de choses à faire et qu'on peut agir, et en même temps ne pas se leurrer sur le fait que la Jérusalem, elle sera au ciel et elle n'est pas sur terre.
Et est-ce que c'est la naissance de l'anthropologie? C'est ça, je veux dire, par rapport à
ces... L'anthropologie, c'est juste étudier l'homme. Donc voilà, on peut dire qu'Aristote a commencé l'anthropologie, sauf qu'il n'a pas fait une anthropologie chrétienne, donc il a fait une anthropologie philosophique. Mais c'est juste un terme pour dire à l'analyse de anthros l'homme. Voilà, donc c'est juste ça. Alors, le Christ, la clé du mystère de l'homme. Donc on voit bien que ces deux premières parties, en fait, c'était vraiment pour nous faire... découvrir que la clé du mystère de l'homme, en fait, c'est le Christ. C'est dans le Christ qu'on va la trouver, puisque l'homme est quand même incompréhensible comme Dieu. Et par contre, le Christ, lui, nous dévoile le mystère, c'est-à-dire qu'il nous dévoile le Père et le projet de Dieu, mais finalement, il nous dévoile aussi finalement ce qu'on est et ce pourquoi on est fait. Et voilà. Donc, le mystère humain a une solution divine. Bonne nouvelle. Et comme le Christ est venu, on a la solution. Alors, le Christ, je vous ai mis une citation de... Alors, je vous ai mis pas mal... Alors là, c'est beaucoup du Rédempteur Hominis, cette partie-là. Voilà. Donc, je vous ai mis une citation de Rédempteur Hominis qu'on va lire. Puis après, j'ai explicité des points de Rédempteur Hominis, mais ça vaudra vraiment de le lire. Le Christ Rédempteur du monde est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme et qui est entré dans son cœur. C'est donc à juste titre... que le Concile Vatican II enseigne ceci, en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Attends, fini. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Et encore, image du Dieu invisible, il est l'homme parfait, qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée dès le premier péché, parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale, car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous. En tout semblable à nous, hormis le péché, il est le Rédempteur de l'homme. Donc, il y a ce que souligne Jean-Paul II dans cette encyclique, c'est vraiment que le Christ, c'est un vrai homme et qu'il a vraiment assumé cette dimension. Et en même temps, à travers le Christ, on voit un homme parfait. Et donc, il nous montre aussi ce qu'est l'homme sans le péché. Voilà. Et donc, il nous a révélé l'homme. On parle souvent de Jésus qui nous révèle le Père. Et c'est très juste, enfin, c'est très vrai. Mais il nous révèle aussi l'homme, en fait. Donc on a ce que nous montre le Nouveau Testament, c'est vraiment l'humanité parfaite, comme une parfaite réussite dans l'homme Jésus. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de nouvel Adam, comme voilà, c'est le nouvel homme, c'est l'homme parfait. Cette humanité intégrale englobe le visible et l'invisible de l'humain, c'est-à-dire à la fois un corps mais aussi une âme. Et non seulement sa beauté morale, mais probablement physique, mais ça bon, on n'a pas de photo donc on ne peut pas dire, porte la trace de sa parfaite ressemblance avec Dieu. Cette ressemblance que Dieu avait voulu pour l'homme, mais il dévoile les possibilités cachées de l'homme qui est fait pour la résurrection. Donc en fait, il nous montre aussi la dimension au-delà, en fait, quelque part, de l'homme. Et c'est ce qui nous fait retrouver aussi des sujets qui sont un petit peu d'actualité. Le fait que infiniment petit dans le sein de sa mère, il a déjà une immense dignité. Jésus, dans le sein de Marie, était déjà le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Défiguré par la souffrance, il a encore la possibilité d'offrir sa vie, et quelque part, il y a une forme de beauté. On parle de Jésus beau sur la croix, du fait qu'il offre sa vie, en fait, dans la beauté du don de ce qu'il est.
Sensualité spirituelle.
Oui, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais donc c'est vraiment l'idée de parce que même dans la souffrance, en fait, c'est les points où on paraît le plus vulnérable et le plus marginal à l'étroit que je vous donne. C'est à la fois l'enfant qui est à naître, qui est, il n'y a pas plus vulnérable, on ne le voit même pas, sur la souffrance sur la croix où il est défiguré par toute la passion, et puis mort quand il est descendu de la croix. Et donc ces trois moments où on peut se dire l'homme, qu'est-ce que c'est vraiment rien. Mais en fait, c'est les moments où Jésus nous... Voilà, dans le sein de sa mère, Marie, enfin, Élisabeth, elle reconnaît plutôt Jean-Baptiste. Et du coup, Élisabeth loue la mère du Seigneur. Et donc, il y a une forme d'exaltation, alors comment c'est possible, quoi. Il n'y a rien, on ne voit rien. Et sur la croix, pareil, le centurion, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Voilà, donc il y a une forme d'évidence dans les moments où on pourrait se dire c'est l'homme le plus vulnérable, le plus défiguré, le plus petit, le plus rien du tout. Et en fait, c'est là qu'il manifeste toute la dignité de l'homme, et parce qu'il y a là-dedans tout cet immense amour, ce don qui fait qu'il est en lien, vraiment le Fils aimé du Père. Voilà. Je trouve que c'est assez... moi, ça m'a pas mal éclairé en préparant ça, de se dire finalement c'est dans ces trois moments où on pourrait dire il n'y a rien, qu'il y a quelque chose de plus manifeste. Et Marie qui récupère le corps de Jésus et qui est... Donc c'est quelle valeur doit avoir l'homme aux yeux de Dieu pour qu'il donne son fils pour le salut du monde, et quelle valeur l'homme, puisque on voit bien que la tentation à Gethsémani, c'est de dire non mais à quoi bon, quoi, enfin quelque part ce qu'il souffre, c'est mais à quoi bon faire ça, quoi, l'homme c'est rien, qu'est-ce que tu t'en faire. Et puis Jésus qui dit non, je vais au bout de la mission. En Jésus-Christ, le monde visible créé par Dieu pour l'homme, ce monde qui, lorsque le péché est entré, a été soumis à la caducité, retrouve de nouveau son lien d'origine, son lien originaire, pardon, avec la source divine de la sagesse et de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. De même que dans l'homme Adam, ce lien avait été brisé, dans l'homme Christ, il a été de nouveau renoué. Donc il y a une vraie réconciliation. Je vous avais dit, le péché, ça a distendu, ça a enlevé l'image, mais quelque part, ça a enlevé aussi la proximité au sens d'intimité avec Dieu. Et là, elle est renouée, le fil est renoué sur la croix. Le Christ rédempteur révèle pleinement l'homme à lui-même. L'homme retrouve la grandeur, la dignité et la valeur propre de son humanité. Dans le Christ et par le Christ, l'homme a acquis une pleine conscience de sa dignité, de la valeur transcendante de l'humanité elle-même, du sens de son existence. L'homme se trouve de nouveau confirmé, il est créé de nouveau. La citation de Galates, plus ni homme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il y a un dans le Christ Jésus. Et donc c'est en s'unissant profondément au Christ rédempteur que l'homme peut se retrouver lui-même, être cet homme nouveau à l'image du Christ. Alors le paragraphe suivant, c'est plus pour... dans cette réconciliation, il y a aussi la dimension de fils premier-né. Et donc quelque part, Jésus, il a correspondu pleinement à la vocation humaine, non seulement en acceptant de faire la volonté du Père, mais en, quelque part, en étant le Fils, qu'il est de toute façon Fils éternel, mais en étant vraiment le Fils au sens obéissant et qui tient sa vie, qui tient son être du Père. Voilà. Et quelque part, lui, dans la Trinité, il est aussi... sa vie, c'est le Père qui est à l'origine. Et nous, condition de créature, et nous aussi on tient notre être du Père éternel. Je vais un peu plus loin. Alors c'est vrai que quand on regarde l'histoire du salut, on voit que Dieu a voulu ça au début. Il l'a pas abandonné, parce que déjà chapitre 3 on a vu il y a le péché, mais après Dieu a essayé de différentes formes d'alliance, donc que ce soit avec Abraham, donc une personne. Dieu a parlé à Abraham, un homme, et pour essayer de... qui lui a fait éprouver la foi, donc la confiance en Dieu. Donc, quelque part, c'est une première dimension. Ensuite, il a fait une alliance avec le peuple, avec Moïse au Sinaï, en donnant les tables de la loi. Et là, c'était une alliance avec une loi et une forme d'obéissance. Donc on est aussi dans cette dimension-là. Mais finalement, il n'y a que dans le Christ parce que du point de vue de l'homme, à chaque fois, ça a échoué et que ces deux tentatives n'ont pas abouti. Mais en fait, c'est que le Christ qui permet de vraiment, en étant du côté de l'homme aussi, de donner ce, de faire les deux côtés, quoi, en fait, quelque part. Voilà. Et donc, l'homme est venu en s'offrant lui-même sur la croix, rejoint l'homme souffrant depuis le péché qui l'éloignait de Dieu. Et du coup, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Et donc, par le Christ, qui est le Fils bien-aimé du Père, eh ben, on est adopté. Donc, le projet initial à la création de nous adopter, d'être des enfants, ben, il est réalisé dans le Christ, qui est le Fils premier-né et qui nous fait fils et filles de son Père. Alors, de même qu'on avait l'Esprit Saint à la création de l'homme, on a l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc, je fais un parallèle entre eux. On a le temps de création de l'homme avec Dieu qui modèle avec la glaise et puis il insuffle. De la même façon, on a le Christ qui finalement fait l'homme nouveau sur la croix, enfin, et à sa résurrection, on va dire, enfin, dans ce triduum. Et finalement, à la Pentecôte, donc comme s'il y avait besoin de temps pour que ça prenne et que nous, on ait le temps de faire la réponse qui va bien, ben, on a l'Esprit Saint à la Pentecôte et qui permet, et c'est intéressant parce qu'à la Pentecôte, c'est pas individuellement sur Pierre, enfin, il y a des langues de feu qui se posent sur chacun, mais ils étaient tous ensemble. Et finalement, c'est sur l'Église qu'on a l'homme nouveau, en fait, à la Pentecôte. Et donc, on a cette dimension où tout d'un coup, c'est Dieu vient nous aider à faire, nous aussi, la réponse qui va bien. Voilà, et donc, on transforme notre cœur de Pierre en cœur de chair, comme l'annonçait Ézéchiel, et donc on peut être cet homme nouveau. Et donc, oui, Dieu se met de notre côté pour qu'on puisse restaurer ce lien et cette relation qu'il a voulu dès le commencement. Donc, en résumé, j'espère que je n'ai pas été trop long, on a encore un peu 3 minutes. Jérôme surveille. Donc, on pourrait dire que l'homme, c'est un assemblage d'éléments bien disparates. Et ça va être vraiment ce que je vous dis, la donnée de chaque cours, hein, quand on parle corps et âme, homme et femme, voilà, pécheur et libre, enfin voilà, toutes ces choses-là, on va parler tout le temps de choses qui ont l'air complètement disparates, voire contradictoires. Et ce que nous montre le mystère de l'homme, et donc précisément ce que nous montre Jésus, c'est que par l'amour, par l'Esprit Saint, ces éléments sont unis, mis en communion, et alors les possibles se démultiplient et l'homme peut atteindre la béatitude en Dieu. Dieu crée et adopte en même temps, c'est ce qu'on a vu à la création, mais c'est ce qu'on voit aussi au salut, au moment de la croix, et puis c'est ce qu'on verra effectivement à la résurrection, à la fin des temps. La réalité naturelle porte donc du surnaturel. Le Christ, en assumant la nature humaine, nous révèle ce qu'elle est et quelle est sa finalité, son union avec Dieu. Donc il y a cette tension entre le moment présent et notre ancrage dans le réel, et puis cette tension vers Dieu et vers le divin. Lui-même a vécu l'union des deux natures, humaine et divine. Donc, quelque part, alors nous, on n'aura pas la nature divine, soyons clairs, hein, mais on va vivre quelque chose de ça. La divinisation, c'est quelque chose de ça. Dans la créature nouvelle, acquise par le Christ rédempteur, nous sommes appelés à être fils de Dieu, à être divinisés par une union intime à l'image de la Trinité. Tout est dit dans la prière sacerdotale du Christ, que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà, et donc notre foi, c'est vraiment un Dieu vivant qui se révèle à l'homme, qui intervient dans son histoire et qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est une phrase de saint Irénée. Et alors, je vous invite à contempler le mystère de Marie, qui a été la première humanité nouvelle, pleine de grâce. Voilà, donc elle est à la fois unie tout particulièrement au Christ, puisqu'elle lui a donné naissance, et donc son corps, voilà. Et elle est couronnée au ciel, donc elle a aussi elle est la première dans la Jérusalem céleste. Et ce qu'on peut contempler en Marie, c'est le fait que Dieu l'a choisie pour mère. Donc là, on se dit, il a réconcilié, enfin, il a été au bout de son projet d'adoption, quelque part, et pour réconcilier et se mettre dans une relation presque d'égal à d'égal. Enfin, voilà, il élève tellement Marie qu'elle peut être la mère de Dieu. Et donc, il lui a donné de porter son fils, le Christ. Voilà. Et donc, elle est la première à nous manifester l'immense dignité de l'être humain, créée et restaurée à l'image et à la ressemblance de Dieu, voulue et choisie toute éternité pour être des fils et des filles, emplie de l'Esprit Saint qui nous unit à Dieu. Et donc, en Marie, on peut contempler cette réalité déjà de la, Alors, c'est la femme nouvelle, mais bon, ça marche pour les hommes nouveaux aussi. L'être humain nouveau, je ne sais pas comment on peut dire. Et cette dimension filiale avec son fiat, cette obéissance, et en même temps, cette dimension de communion réelle avec Dieu et avec le Christ, empli de l'Esprit Saint. Donc là, on a bien l'Esprit Saint qui l'a tellement imprégné que ça a permis la naissance de Jésus. Donc, on a bien cette imprégnation complète de Marie. Et Marie, c'est une femme toute simple, quoi. Donc, en fait, on va souvent chercher la grandeur et la dignité de l'homme là où elle n'est pas. En fait, sa dignité, c'est d'être à l'image de Dieu et d'être dans cette relation ajustée avec Dieu. Voilà. Merci. Qu'on n'aura que à la fin des temps. Voilà. Merci.